Clé en main, votre émission mensuelle sur Radio Grand Ciel, RGC. Alors, maintenant, bonjour. Que la nouvelle année prenne soin de vous et que vous preniez soin de cette nouvelle année 2020, c'est mon vœu et je remercie Pascal de m'avoir soufflé cette belle phrase.
Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père. Moi qui suis né près de Paris, sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Et si demain, comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre pour chanter au monde mes envies, voyager des années entières. Moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Trop de temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né.
Ce mois-ci, nous allons parler populisme. Quand on n'a plus d'arguments à opposer à son contradicteur, on le traite de populiste, à tout bout de champ, à croire que chacun est le populiste de son voisin. Donald Trump, le président américain, est populiste. Boris Johnson, le premier ministre anglais, est populiste. Viktor Orban, le premier ministre hongrois, ex-dissident anticommuniste, est populiste. Jean-Luc Mélenchon est populiste. Hugo Chavez était populiste. Nicolas Maduro est populiste. Le mot est galvaudé. En fait, qu'est-ce que le populisme ? Populisme, vous avez dit populisme ?
Qu'est-ce qu'on entend quand on entend quelqu'un qu'on va dire populiste ?
You are fantastic people.
La rhétorique populiste, elle est très singulière. Elle commence avec le ton de la voix, avec le rythme. Et c'est vrai qu'on peut retrouver un rythme à la Hitler dans Trump. Le héros populiste est un héros rythmé et qui parle fort et qui se montre, lui, comme conducteur, comme Führer. À partir de là, le peuple va le suivre. Un certain nombre d'idées très brèves, qu'on exprime en phrases ou qu'on martèle de manière très brève et très répétée, et ça va rentrer comme la méthode Coué. D'autant plus qu'au fond, ce sont des phrases qui viennent du peuple. Et ça, les Grecs avaient un mot pour ça. C'est la démagogie.
All Americans, I thank you. You are very, very special people.
Il s'agit d'avoir un bouc émissaire.
İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok.
On entend la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Hein. Nous, on est nous, nous, le peuple.
Les Hongrois ont décidé que ce pays ne serait pas un pays de migrants.
Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's 3 million dragari, there are. I'd be happy to slaughter them.
On est contre des technocrates, des juifs, des banquiers, contre des intérêts particuliers et pour le peuple. Quand on écoute les populistes d'aujourd'hui, ils ont fait un avec ce qu'ils appellent le peuple, les aspirations du peuple. Et quelles sont-elles ? La sécurité.
Our country and about its border security.
Vamos restabelecer a ordem nesse país.
L'accroissement du bien-être, un ancrage dans quelque chose de l'ordre de la nation, qui n'est pas une nation au milieu des autres, mais une nation exclusive. Deutschland über alles. Ça, c'était Hitler.
Il concetto del prima agli italiani.
America first. America first.
Brasil acima de tudo.
Au fond, le populisme, c'est de faire prendre la partie pour le tout, de faire prendre une partie du peuple, une partie du monde, pour le tout et satisfaire ses intérêts partiaux, en faisant croire qu'ils sont généraux et universels. C'est peut-être ça le point le plus grave. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'en politique, comme dans d'autres domaines, par exemple en amour, eh bien, d'une certaine manière, les mots font les choses. Parler, c'est faire exister quelque chose. Quand on dit « je t'aime », ben, y a quelque chose qui se produit de l'ordre de l'amour. Je crois qu'en politique, réellement, le discours est une clause essentielle de réussite et de violence.
Jair Bolsonaro arrive officiellement au pouvoir au Brésil. Le chef de l'État issu de l'extrême droite a été investi ce mardi à la tête de la première puissance d'Amérique latine. Cet ancien gradé de l'armée, nostalgique de la dictature, devient le 38e président brésilien. Il a prêté serment à la Chambre des députés à Brasilia lors d'une cérémonie boycottée par la gauche.
Nous faisons face à un défi de taille, affronter les effets de la crise économique et du chômage record. L'idéologie martelée à nos enfants, la dénaturation des droits humains et le délitement de la famille. Nous proposerons de mettre en œuvre les réformes nécessaires, de mettre en place les infrastructures, de réduire la bureaucratie, de simplifier, d'éliminer la défiance et le fardeau de l'État qui pèse sur ceux qui travaillent et produisent.
Le Premier ministre hongrois et eurosceptique Viktor Orban est venu féliciter cet inconditionnel de Donald Trump dont il partage le goût de la provocation. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait lui aussi fait le déplacement, tout comme le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou.
So help me God. Congratulations, Mr. President.
Yeah! Today, we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C.
and giving it back to you, the people. The citizens of America are now joined in a great national effort.
Vous venez d'entendre Donald Trump lors de son premier discours en tant que président des États-Unis. Nous, les citoyens américains, dit-il, nous sommes unis dans un effort collectif pour reconstruire notre pays. Nous transférons le pouvoir de Washington au peuple des États-Unis. Avant lui, vous avez pu écouter le président du Brésil, Jair Bolsonaro, et un extrait d'une émission de France Culture qui n'y allait pas par quatre chemins, en faisant référence à Hitler pour présenter le populisme. Le phénomène populiste est mondial, la vague populiste semble irrésistible. C'est la quatrième année de Donald Trump qui commence, ce sont les débuts de Jair Bolsonaro au Brésil. Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir en Turquie depuis 2003. Narendra Modi commence son deuxième mandat en Inde. On pourrait rajouter les Philippines, la Pologne, l'Italie, la Hongrie. À chaque fois, au départ, pas de putsch, pas de dictature, mais ceux qu'on appelle populistes sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Ils se sont montrés capables de remplacer les partis traditionnels, en n'étant pas simplement des forces politiques en marge, des forces de contestation sans débouché. Ils sont au pouvoir, seuls ou en coalition, et une grammaire populiste universelle est en train de s'emparer du discours politique. Ils contestent systématiquement les élites qu'ils considèrent comme corrompues. Ils partent en guerre contre les médias, ils contrôlent de mieux en mieux leurs oppositions. Ils pratiquent un protectionnisme volontariste et tentent d'arrêter le flux des migrations. Dans populisme, il y a peuple. Le populisme part du peuple, comme les partis politiques qui, dans les démocraties, se réclament du peuple. Les populistes font référence à la souveraineté du peuple, mais comme ils dénoncent les élites, on se rend compte que tout le monde n'est pas inclus dans cette souveraineté. Les financiers, les politiques classiques, les intellectuels sont considérés loin du peuple. Les populistes pratiquent l'exclusion. En dehors de la communauté du peuple, il y a les traîtres à la nation. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, George Soros, le financier mondialiste, milliardaire américain d'origine hongroise, est le produit du cosmopolitisme. Et l'appartenance de la Hongrie à la sphère chrétienne est utilisée contre les migrants musulmans aux portes de l'Europe, ce qui fait hurler l'opposition à Viktor Orban. Les populistes de gauche considèrent le peuple comme une entité sociale, l'historique classe laborieuse, qui exclut elle aussi les élites. C'est la Grèce de Syriza, l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras. C'est le Venezuela, avec la dénonciation par Hugo Chavez puis Nicolas Maduro, des ennemis de la révolution bolivarienne. N'oublions pas qu'historiquement, le populisme est né à gauche, en Russie et aux États-Unis, avec la protection sociale.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. And when a child is born into this world,
la réforme constitutionnelle est approuvée, vous pensez être président à vie?
Je ne sais pas. J'ai pas pensé à cela. Je ne pense pas être président toute la vie. En tout cas, ce n'est pas ma réflexion du moment. La seule chose que je propose aux Vénézuéliens, comme cela est fait en France, le président est élu, réélu, réélu autant de fois que le peuple souhaite. Et je crois que c'est ça le plus important. Que le peuple dispose du pouvoir de choisir, de re-choisir un chef d'État autant de fois qu'il le souhaite. Je crois que c'est le plus important. Mais alors, que moi je sois président un jour de plus, un an de plus, ou 3 ans de plus, ou 20 ans de plus, ça dépend d'un grand nombre de facteurs. Mais en tout cas, ce n'est pas l'idée que j'avais derrière la tête quand j'ai fait cette proposition. Moi, je pense au peuple vénézuélien.
Quelle est pour vous l'idée la plus révolutionnaire qui sous-tend cette réforme?
Inclure le pouvoir populaire et l'inscrire dans la Constitution comme un des volets du pouvoir public national. Par la base, le pouvoir populaire va donner une nouvelle forme au pouvoir, une nouvelle géométrie au pouvoir. Cette géométrie comprend des nouvelles limites et qui suppose une grande révolution morale, une grande révolution sociale, une grande révolution politique. Parce que là, nous parlons de démocratie directe, de démocratie pleine. C'est la raison pour laquelle nous disons que le socialisme est profondément démocratique. Et de plus, une grande révolution économique. Et tous ces éléments vont créer un système de canaux très puissants qui vont permettre d'apporter le pouvoir aux communautés, de redonner le pouvoir au peuple. Ce n'est que de cette manière que nous allons pouvoir mettre fin à tous les maux que nous avons hérités du passé. C'est mieux que la Révolution française, beaucoup plus avancée que la Révolution française.
Cette année marque une occasion toute particulière. En effet, le monde entier fête le 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. Son message de paix, de non-violence, reste pertinent aujourd'hui pour parvenir à la paix, au développement et au progrès dans le monde. Monsieur le Président, cette année a été l'année de la plus grande élection au monde. Dans la plus grande démocratie au monde, le plus grand nombre d'électeurs a élu mon gouvernement pour un deuxième mandat, en le dotant d'un mandat plus robuste encore que le précédent. C'est grâce à ce mandat qu'une fois de plus, je me tiens ici devant vous. Mais le message contenu dans ce mandat est encore plus important. C'est un message plus large et encore davantage de source d'inspiration. Monsieur le Président, lorsqu'un pays en développement est capable d'exécuter avec fruit la plus grande campagne au monde d'assainissement avec la mission pour une Inde propre en construisant plus de 110 millions de toilettes en l'espace de 5 ans pour tous ses compatriotes, ces réalisations, ces résultats sont une source d'inspiration pour le monde entier. Lorsqu'un pays en développement organise avec fruit le plus grand programme d'assurance maladie au monde en donnant à 500 millions de personnes une couverture sanitaire annuelle de 500 000 roupies pour avoir accès à un traitement gratuit. Les résultats et le système découlant de ce programme montre au monde une nouvelle voie à suivre. Lorsqu'un pays en développement met en œuvre avec fruit le plus grand système d'inclusion financière au monde en ouvrant plus de 370 millions de comptes bancaires pour les pauvres en l'espace de 5 ans seulement, le système qui en résulte donne confiance aux pauvres du monde entier.
Narendra Modi, Premier ministre indien, qui vient de s'exprimer, Hugo Chavez, qui l'avait précédé dans un entretien, montre que le populisme, c'est surtout un style politique efficace. Que l'on regarde les chefs politiques qu'il incarne et l'on voit les similitudes entre Hugo Chavez, Narendra Modi, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan. Lors de leur conquête démocratique du pouvoir, leurs discours sont teintés d'une part de démagogie, en affirmant que dans la société, il ne doit plus y avoir de haut et de bas, ils utilisent les émotions, la morale, la peur, la colère, à gauche comme à droite. C'est l'autre qui fait peur, et dans tous les cas, c'est l'establishment, les gens en place, qui font les frais de leur diatribe. Le leader, au pouvoir suprême ou pas, sait se rendre populaire, c'est toujours ou presque un homme, sauf par exemple dans le cas français avec Marine Le Pen. On ne peut ignorer ce côté machiste et la défense de la masculinité considérée comme menacée par le féminisme. Le leader populiste, le chef populiste, se présente par ailleurs comme n'importe lequel d'entre nous, mais il est aussi quelque part un héros. On peut voir en Inde des masques à l'effigie de Narendra Modi et des vêtements floqués sont distribués gratuitement permettant de s'identifier au leader. Le leader aime provoquer une relation fusionnelle avec ses troupes. Hugo Chavez, dans le passé, Narendra Modi aujourd'hui, ne veulent pas de médiation entre eux et leurs peuples respectifs. L'exercice du pouvoir se fait par l'intermédiaire d'un homme neuf, qui se veut apolitique, hostile au métier de politicien. Le leader populiste incarne le peuple contre le pouvoir judiciaire, contre le pouvoir parlementaire en place, contre les vieux partis illégitimes par essence. Pour Viktor Orban, ex-dissident anticommuniste du temps de l'URSS, l'exécutif l'emporte sur le judiciaire, les ONG, les médias ne doivent pas être prédominants. Aux États-Unis, c'est l'opposition démocrate qui rappelle l'état de droit américain face au président Trump qui le menace, selon les démocrates. Les populistes au pouvoir se disent être toujours dans l'opposition. Narendra Modi aime se dire à l'opposé du grand Nehru, ancien premier ministre iconique de l'Inde, et il désigne des ennemis en organisant des opérations militaires au Cachemire musulman, qui revendique par ailleurs son autonomie refusée par l'Inde. Alors la question qui peut se poser sur le populisme est double. Le populisme est-il une stratégie politique pour aller au pouvoir avec beaucoup de démagogie, une absence de programme, ou bien le populisme est-il une vraie idéologie qui scinde la société en deux? Avec un populisme de gauche qui considère que les gros sont corrompus moralement, avec un national populiste basé sur la xénophobie, sur le rejet de l'étranger, le rejet du migrant. Dans l'Union européenne, le rejet de Bruxelles, le rejet du capitalisme réunissent quant à eux le populisme de gauche et le populisme national.
Guido del mare luccico, il tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e mi credette di affogare. Se voglio bene assai, ma danno tanto bene sai. Della lirica, dove ogni dramma ha un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, la scia d'un elica.
Bonjour, bienvenue à Ankara, nous sommes au palais présidentiel. Notre invité, le président.
Ma sì, è la vita che finisce.
Recep Tayyip Erdogan, monsieur le président. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce palais, quelques jours après cette tentative de coup d'État, dont on voit ici... les marques dans ce palais, qui a été une des cibles des putschistes. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le scénario de cette nuit du 15 juillet. Il y a notamment un point sur lequel je voudrais vous interroger. On sait que vous étiez donc en vacances, au bord de la mer, que finalement vous décidez de regagner Istanbul par les airs, par l'avion. On dit que les putschistes avaient repéré sur leur radar votre avion, mais vous avez quand même réussi à atterrir à Istanbul. Et on a du mal à comprendre comment ces putschistes ne vous ont pas soit abattus, soit obligés à atterrir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous leur avez échappé ?
Tout d'abord, je voulais remercier France 24. Évidemment, nous étions à Marmaris en vacances. Il y a eu plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, l'une de ces étapes importantes était d'appeler le peuple à venir sur les places publiques. Ensuite, il y a eu le transfert en hélicoptère. Il y avait 4 aéroports différents où 4 avions nous attendaient. Et, comme je l'ai déjà dit, nous avons choisi l'aéroport qui nous attendait à l'aéroport de Dalaman. Mais nous ne savions pas exactement où nous devions aller, car j'avais donné 2 destinations à mon pilote, Istanbul et Ankara. Et je lui ai dit, pour l'instant, vous n'entrerez en contact avec aucune tour de contrôle. Et ils avaient la possibilité de suivre notre avion, de savoir où nous allions, mais ils n'ont pas réussi à nous suivre, car nous avons d'abord emprunté un hélicoptère. En 15 minutes de vol avec l'hélicoptère, nous sommes arrivés à l'aéroport de Dalaman, et de l'aéroport de Dalaman, nous avons pris notre avion et nous avons décollé immédiatement. Et je n'ai indiqué à mon pilote où il devait atterrir que 15 à 20 minutes avant. Et à cause de ça, je pense qu'ils n'ont pas réussi à nous suivre et à savoir exactement où nous étions. Et notre avion était un avion Gulfstream. Et c'est avec cet avion-là que nous avons fait ce déplacement. Il faudrait surtout leur poser la question à eux en disant comment, pourquoi n'avez-vous pas réussi à les attraper ? Et au-delà de tout ça, et il y a un plan basé sur le destin chez les musulmans. Et ce plan de destinée fonctionne. Nous avons pris toutes les mesures qu'il fallait. Et ensuite, nous avons entrepris notre voyage. Jusqu'au dernier moment, je n'avais pas dit à nos pilotes où nous devions atterrir. Ils ont eu cette information que 10 à 15 minutes avant. J'ai appelé le pilote, le commandant. Je lui ai dit, voilà, nous allons atterrir à tel endroit. Prends les précautions qu'il faut, prends les mesures qu'il faut.
Au regard du populisme, le cas de la Turquie est emblématique. Le parti de Recep Tayyip Erdogan, l'AKP, parti de la justice et du développement, est arrivé au pouvoir en 2002, après une très grave crise économique avec un discours populiste mettant en cause tout le système en place en Turquie. Depuis, ce parti, l'AKP, gagne toutes les élections. L'élite, entre guillemets, éduquée, laïque, est dénoncée comme éloignée de la réalité de la vie quotidienne des gens. L'AKP défend une vraie démocratie populaire, une authenticité culturelle contre les élites occidentalisées. Et 17 ans après l'arrivée au pouvoir, c'est toujours la même rhétorique. La volonté populaire se manifeste par le vote contre toutes les institutions en place. Recep Tayyip Erdogan s'est attaqué aux militaires, par évidence non élus, à la bureaucratie étatique, à la justice, jugée partiale. Il désigne les ennemis du peuple, tous ceux qui s'opposent à la majorité électorale. Sa Turquie s'appuie sur les associations, les syndicats, proches du pouvoir, les entrepreneurs qui sont mis en avant et associés à toutes les prises de décision. La gauche turque est déclarée idéologue. On pourrait faire d'ailleurs le même constat dans la Russie de Vladimir Poutine avec naturellement les précautions d'usage sur les différences sociétales et culturelles. En 2019, Erdogan a perdu les grandes villes, Istanbul, Ankara, lors des élections municipales, mais l'opposition, regroupée pour l'échéance électorale, reste bancale, très hétérogène et aux intérêts divergents.
C'est une réforme à la mesure ou à la démesure de son pouvoir que Recep Tayyip Erdogan s'apprête à faire adopter par référendum le 16 avril. Si le peuple turc valide le nouveau régime hyper-présidentiel qu'il souhaite établir, l'homme fort de la Turquie pourrait gouverner jusqu'en 2029. J'espère que cela sera une bonne chose pour notre peuple, une bonne chose pour le pays. J'espère que cela sera le début d'une nouvelle ère. Le projet de réforme constitutionnelle a cristallisé les tensions au sein du Parlement turc lors de son adoption. Les députés en sont même venus aux mains. Mais pour le président Erdogan, cette révision est nécessaire pour garantir la stabilité de la Turquie, confrontée à une vague sans précédent d'attentats et de difficultés économiques. Si la réforme est adoptée dans 2 mois, le système parlementaire en vigueur sera remplacé par un système présidentiel. Il n'y aura plus de Premier ministre et il reviendra au président lui-même de nommer et limoger ses ministres. Le président pourra intervenir directement dans le fonctionnement de la justice et déclarer l'état d'urgence. Le Parlement passera de 550 députés à 600, un Parlement que le président pourra contourner en promulguant des décrets et en ayant le droit de le dissoudre. Si le compteur du président Erdogan, élu en 2014 à la présidence, après 12 ans à la tête du gouvernement, est remis à zéro, il pourrait donc rester au pouvoir jusqu'à au moins 2029. Le 21 janvier, le Parlement a adopté le projet de réforme avec une majorité requise des 3/5. Reste maintenant à obtenir l'aval de la population le 16 avril. Le président compte bien l'obtenir, fort d'une popularité qui s'est encore renforcée après le coup d'État de cet été. Force est de constater que ses partisans n'ont pas été ébranlés dans leurs convictions malgré la purge qui a suivi les événements. Mais une partie de la population continue de manifester et de dénoncer une dérive autoritaire d'Erdogan. À l'image de son imposant palais présidentiel, inauguré en 2014 en même temps que son dernier mandat, la plus grande résidence présidentielle au monde, l'homme fort de la Turquie montre qu'il est là pour durer.
Run!
Et l'Europe ? Le cas de l'Europe est lui aussi plein d'enseignements quant à l'influence du populisme. Aux élections européennes de 2019, les majorités passées ont toutes reculé, et en particulier le PPE, Parti Populaire Européen, si omniprésent par le passé. Mais ce n'est pas le grand basculement que certains avaient annoncé imprudemment. Le bon score des écologistes et des forces de la droite extrême va peut-être permettre de constituer des minorités de blocage, mais ce n'est pas la déferlante prévue pour un bouleversement total de la gestion de la communauté européenne. La gauche radicale, populiste, dont en particulier Podemos pour l'Espagne et Syriza pour la Grèce, passe de 52 sièges à 38. La droite populiste est en hausse significative avec le PiS, Droit et Justice, polonais, le Fidesz, Union civique, hongrois, le Rassemblement national français, l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, le Vox, espagnol, le FPO autrichien, le Forum démocratique des Pays-Bas. Mais cette droite populiste peine à former un groupe cohérent, chacun prêche pour sa paroisse, même si cette droite populiste passe de 37 à 73 élus, représentant cependant moins de 10% des sièges. Le parti de Matteo Salvini, la Ligue du Nord, en Italie, est jugé trop pro-russe pour les pays de l'Est, sortis du communisme, et Marine Le Pen, avec sa politique sociale, s'oppose à Vox, en Espagne. Les Hongrois et les Polonais font bande à part, ainsi il n'y a aucune présidence de commission pour les populistes européens et la puissance de blocage est donc amoindrie. Par contre, dans le domaine des idées, on peut parler d'orbanisation rampante, en faisant référence à Viktor Orban, et la création d'une commission nouvelle sur la préservation du mode de vie européen a pu faire penser à une prise en compte des options populistes classiques.
Le Parlement européen déclenche une procédure contre la Hongrie. Il dénonce une menace systémique contre les valeurs de l'Union européenne. Il s'agit de la procédure de l'article 7, le mécanisme le plus radical visant un pays dont l'Europe estime qu'il a bafoué les règles. Le Parlement européen reproche au gouvernement de Viktor Orban la violation de la démocratie et des droits de l'homme. Le vote des eurodéputés est une petite vengeance des pro-immigration. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre hongrois des Affaires étrangères. Hier, le Premier ministre Viktor Orban a été ferme devant le Parlement européen à Strasbourg. Il a fustigé le chantage des forces pro-migrants au sein de l'Union européenne contre son pays. On l'écoute.
Monsieur le vice-président, soyons directs l'un envers l'autre. La Hongrie va être condamnée parce que les Hongrois ont décidé que ce pays ne serait pas un pays de migrants. Avec tout le respect que je vous dois, je dois refuser très fermement les menaces, le chantage, la diffamation des forces soutenant les immigrés et les migrants contre la Hongrie et le peuple hongrois. Je dois dire que, quelle que soit votre décision, la Hongrie n'acceptera pas ce chantage. La Hongrie protégera ses frontières, arrêtera les migrations illégales et défendra ses droits.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy.
driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you.
Le trumpulisme, c'est l'expression qu'a trouvé un chercheur pour désigner le populisme du président Trump, qui a battu la candidate démocrate Hillary Clinton à la présidentielle de 2016. Trump a gagné avec son slogan « Make America Great Again », faire à nouveau de l'Amérique une grande puissance, rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est de la nostalgie restaurationniste, comme le reconnaît un autre chercheur, avec une dose importante de protectionnisme économique, l'idée de construire un mur au sud du pays face à l'émigration mexicaine. Une fois de plus, on retrouve l'idée d'un vrai peuple face aux médias omniprésents, dans les débats et aux élites éloignées de toute réalité. C'est le grand retour des émotions fortes avec une vraie ferveur entre Donald Trump et ceux qui adhèrent à ses idées et à ses propositions. L'anti-intellectualisme est de mise, on n'aime pas dans l'entourage de Donald Trump ceux que l'on considère comme des pseudo-intellectuels, naturellement démocrates. La chaîne CNN et le quotidien le New York Times analysent tous les jours les tweets de Donald Trump, ses produits marketing des Trumpistes, pendant que ces derniers parlent de véritables witch hunt, de chasse aux sorcières contre Donald Trump et ses électeurs. Les experts républicains en communication mettent les réseaux sociaux avec efficacité au service de Donald Trump. Donald Trump s'oppose à Bernie Sanders, le populiste de gauche, possible candidat en 2020, et qui affiche un anticapitalisme pur et dur, traitant Donald Trump de candidat des pauvres, mais de président des riches, en oubliant au passage les milliers d'emplois créés. Donald Trump est au pouvoir, mais il se comporte comme s'il était toujours dans l'opposition, et la procédure d'impeachment votée par les démocrates est jugée comme une tentative de coup d'État par les républicains. Dans les élections de mi-mandat, le vote des jeunes, qui avaient déserté les urnes, a été très fort, et les jeunes républicains se sont fait entendre. Les médias ne sont pas mis au pas par le gouvernement Trump, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, tous les jours, contre Trump. Si, à la Cour suprême, Donald Trump nomme des juges conservateurs, les juges fédéraux ont pris des décisions suspensives sur la politique de contrôle de l'immigration par le président. Si ce dernier dénonce l'accord de Paris et de la COP21, de nombreuses villes américaines appliquent cet accord.
Monsieur le vice-président, membres du Congrès, la Première Dame des États-Unis, et mes chers compatriotes, le moment en est un de potentiel illimité. À mesure que c'est un nouveau Congrès, je suis là debout devant vous, prêt à travailler afin d'orchestrer des percées historiques pour tous les Américains. Des milliers de nos concitoyens nous regardent, nous écoutent dans cette grande assemblée, espérant que nous allons gouverner non pas comme deux partis, mais comme une seule nation. Les priorités que j'aimerais vous présenter, ce ne sont pas des priorités républicaines ou démocrates. Ce sont les priorités du peuple américain. Beaucoup d'entre nous avons fait campagne sur les mêmes promesses de base, à savoir défendre l'emploi américain et demander du commerce équitable pour le travailleur américain. Rebâtir et revitaliser notre infrastructure nationale, réduire le prix des soins de santé et des médicaments prescrits, d'en arriver à un système d'immigration qui est sécuritaire, qui est légal, moderne et qui assure la sécurité de tout un chacun, et d'en arriver à une politique étrangère qui met nos intérêts, les intérêts de l'Amérique, au tout premier plan. Il y a une occasion, maintenant, qui se présente à nous, mais il nous faut faire preuve de courage pour saisir cette occasion historique qui se présente à nous. La victoire, ce n'est pas de gagner pour notre parti. La victoire, c'est de gagner pour notre pays. Cette année, l'Amérique va reconnaître deux anniversaires importants qui nous montrent la majesté de la mission historique de l'Amérique et le pouvoir de cet orgueil national. Au mois de juin, il y avait déjà 75 ans ce que le général Dwight D. Eisenhower appelait la Grande Croisade, la libération par les Alliés de l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le jour D, le 6 juin 1944, 15 000 jeunes Américains ont sauté du ciel et 60 000 se sont présentés par voie maritime afin de sauver notre civilisation de la tyrannie.
Au total, on pourrait donc dire que le populisme signale que quelque chose ne va pas, ne va plus. Prendre en compte l'insécurité sociale, l'insécurité économique, l'immigration est indispensable pour tous les acteurs politiques. Le vote populiste suit la plupart du temps le vote progressiste qui ne réussit pas à redresser la situation économique et sociale. Et le simplisme de certains commentateurs politiques ne permet pas véritablement de comprendre ce qu'est exactement le populisme. Un bel exemple, Viktor Orban, en mars 2018, immédiatement qualifié d'antisémite, parce qu'il avait parlé du réseau des ONG financé par les spéculateurs internationaux, englobé et incarné dans la personne de George Soros. Un adversaire qui est différent de nous, un adversaire qui n'a pas de patrie. Or, le premier ministre israélien, Netanyahou, est le premier dirigeant étranger à féliciter Viktor Orban, après sa victoire législative en mai de la même année. En fait, Orban accuse Soros de favoriser l'immigration en prônant l'accueil de réfugiés moyen-orientaux, immigration que refuse une grande majorité des Hongrois qui l'ont élu. Pour conclure et permettre la réflexion à venir, laissons la parole à deux philosophes, Alain Finkielkraut et Albert Camus. Alain Finkielkraut, d'abord, les planétaires risquent de se raconter longtemps encore que les peuples, qui ne veulent pas faire les frais du grand déménagement du monde, sont gagnés par le populisme et succombent au mal identitaire. Albert Camus, la démocrate, est modeste, il avoue une certaine part d'ignorance, il reconnaît qu'il a besoin de consulter les autres, de compléter ce qu'il sait par ce qu'ils savent. Parole porteuse d'avenir. Les ponctuations musicales ont été assurées par Faudel, Youssoundour, Florent Pagny, Sophia Issaidi, Nora Jones, Rachita. Et nous avons pu écouter des documents sonores issus de France Culture, Euronews, la BBC, RT France, France 24, Radio-Canada. C'était Clé en main sur Radio Grand Ciel RGC. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, qui nous rapproche.
Yeah.